le leadership. Nous sommes dans les moments importants pour le pays, pour l'Église, pour ta famille. Ce sont des moments où Dieu suscite et Dieu prépare et Dieu donne des personnes pour vous accompagner. Des personnes, donc, des qualités et qui s'arrêtent à la hauteur pour vous aider, pour nous aider et pour influencer, pour que notre Église prenne sa place et fasse du bien dans notre société. Quatre points. Dieu qui donne ces personnes met au cœur quelque chose qui est admirable et qui est bien. De deux, qu'il soit donc irréprochable. De trois, avec une sagesse pour conduire et aussi une grâce pour vivre et pour être utile. L'apôtre Paul, lorsque nous l'avons vu la dernière fois, avait démarré dans le premier voyage missionnaire une église. Et avant de quitter, il a mis en place, instauré des anciens. Sept années plus tard, quand il repasse à Éphèse, il veut les rencontrer et il a des paroles qui les mettent en garde. Parce qu'il dit, après sa venue, vont venir des personnes qui vont pas servir l'Église, mais elles-mêmes. La mise en garde est importante. Faites bien attention à vous-même, il dit, et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous. Ils n'épargneront pas le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples à leur suite. Restez donc vigilants. Encore sept années plus tard, l'apôtre Paul est fini. Il est en prison. Il sortira une fois à Rome et puis il sera décapité avant qu'une grande persécution de Néron ne s'abatte sur l'Empire romain. La qualité, donc, des hommes à qui Christ et les apôtres ont confié cette charge et responsabilité, l'Évangile, est primordiale. Et nous voulons, ce matin, vous inviter de reconnaître autour de nous et dans notre sein des hommes, des personnes qui auraient ces qualités, ces capacités pour marcher à nos côtés. Pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous instruire, pour nous enseigner, pour veiller sur l'Église, veiller sur ta famille, veiller sur toi. Et donc, de même que l'apôtre Paul avait désigné ces personnes, de même que Dieu, par son esprit, vous laisse la charge de désigner parmi nous des hommes qui auraient ces capacités, ces qualités. Dimanche prochain, nous sommes à l'Assemblée Générale. Dimanche prochain sera une occasion de vous entendre. Mais ce matin, nous voulons entendre qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qu'il dit pour que ces personnes puissent marcher avec vous. En Timothée, chapitre 3, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Alors, si quelqu'un donc qui a une certaine aspiration, quelque part, Dieu a œuvré, a travaillé dans sa vie, dans son cœur, pour qu'il voit d'autres, ils voient avec les yeux de Christ et qu'il veut servir et il veut façonner, il veut être utile pour le royaume de Dieu. Et il aspire, et il se présente devant Dieu, et Dieu le manie, Dieu travaille dans sa vie pour que cet homme se prépare à être utile dans la vie des autres. Et donc, il aspire. Aspirer, c'est, on tend la main, mais c'est trop haut. J'arrive pas. Mais je sens que c'est important que j'aille dans ce sens. Et donc, j'aspire. Il désire de deux, quelque part dans son cœur, il désire ce qui est une belle œuvre. Alors, le mot « désirer » dans le Nouveau Testament surtout, « epitumios » est le mot « epi » c'est sûr, et « tumos » c'est passion. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose, une contrainte, quelque chose qui prend la vie. Mais d'habitude, c'est utilisé dans le mauvais sens. Quelque chose qui m'en prend et qui m'importe. La plupart du temps, c'est utilisé de cette manière dans le Nouveau Testament. Mais ici, c'est utilisé pour quelqu'un qui aspire et qui désire une belle chose. Donc, gloire à Dieu, ça veut dire qu'il y a une grâce, un mouvement de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu dans la vie de Satan qui les libère de ses autres forces et puissances pour les mettre à l'œuvre, pour faire du bien, pour bénir. Or, le mot « surveillant » Episcopos, du mot épi sur et scopos comme microscope qui surveille, il veille sur les autres. Et c'est utilisé dans l'Ancien Testament, dans les 70 et dans le Nouveau, pour dire que c'est Dieu qui visite. Dieu qui a visité Abraham et lui donné un fils. Dieu qui a visité Marie. Et donc, quelque part, quand c'est Dieu qui visite, il y a de belles choses. Un Dieu qui nous visite, un Christ qui vient dans la personne de son peuple et de ses responsables pour bénir, pour accompagner, pour faire du bien. Et c'est ça le désir et on aspire à une belle. Une belle œuvre parce que c'est l'œuvre de Christ, c'est l'œuvre qui fait du bien, c'est l'œuvre qui donne grâce. Vie, force, courage, amour, pardon et perspective. Et donc c'est une belle, mais c'est aussi une œuvre. Et c'est du travail, et c'est fatigant, et c'est même difficile, et c'est même parfois dangereux. Ce parmi nous que Dieu aurait donné ce désir sont des cadeaux remarquables, merveilleux pour vous aider, pour vous aimer, pour marcher à vos côtés. Et s'il y a de telles personnes parmi nous, ces personnes aspirent et désirent, par la grâce de Dieu, à une belle œuvre pour faire une bien merveilleuse de l'œuvre de Christ parmi vous. S'il y a ces personnes que vous pouvez reconnaître, encouragez-les. Priez pour eux. Bénis Dieu pour eux. Parce qu'ils font avancer l'œuvre de Jésus-Christ parmi vous. Mais il faut, l'apôtre Paul dit, si ces hommes vont être utiles, il faut. Moins de cela ne suffira pas. Moins d'une qualité la plus élevée, la plus haute, ne suffira pas. Pour produire les résultats que Jésus-Christ veut dans tes vies. Dans ta vie, pardon, dans vos vies. Alors, il faut donc, ces qualités sont importantes, nécessaires pour que Dieu agisse. Il faut d'abord qui soit irréprochable, rien de moins. Peut-être pas parfait, mais que s'il se rend compte qu'il y a encore du travail à faire, prions, encourageons, accompagnons-les. Pour qu'il devienne, pour qu'il soit irréprochable, et que s'il y a des choses à reprocher, qu'il puisse les reconnaître. Et puis c'est pour cela que l'apôtre Paul dit à Timothée, « Veille sur toi-même !» Je dois veiller sur moi-même. À quoi ça sert si je ne vais pas aller aux autres? L'apôtre Paul dit. Et moi, je perds moi-même. Mon âme et ce que je dois faire. 1 Timothée 4, 16. C'est ainsi que tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit apte. Pas pour les autres. Afin que l'homme de Dieu soit apte. La belle œuvre qu'on entreprend, c'est d'appeler les pécheurs à la repentance, de permettre qu'il y ait cette liberté, ce pardon, cette grâce vient, cet amour, on vit, on approfondit. Et ça veut dire que dans chaque vie qui s'engage à vouloir aider d'autres, ses oreilles soient grandement ouvertes pour que Dieu parle. Pour que d'abord j'entende, pour que ceux qui veulent marcher à vos côtés pour vous aider, ils entendent d'abord pour eux-mêmes, ils veillent sur eux-mêmes. Ils entendent. Et donc qu'ils soient dans la parole de Dieu pour eux-mêmes. Qu'ils la lisent, qu'ils la comprennent, que Dieu parle et qu'ils luttent. D'abord, avec eux-mêmes. Que Dieu, dans sa grâce et dans son amour, lutte pour nous, pour libérer, pour bénir et guérir et fortifier ses frères pour qu'eux, à leur tour, ils soient aptes à aller dans une bataille pour les âmes, pour toi, pour ta famille. Et donc, il faut qu'ils soient irréprochables. Richard Baxter, anglais du XVIIe siècle, disait: prenez garde à vous-même de crainte que votre exemple ne contredise votre doctrine. D'être la pierre d'achoppement qui conduira l'aveugle à sa perte, de retracter par votre vie les paroles que vos lèvres ont prononcées. Il suffit d'une seule parole motivée par l'orgueil, la mauvaise humeur ou l'arrogance, d'une seule dispute, d'un seul geste de convoitise pour trancher la gorge à bien des sermons et pour éliminer le fruit de tous vos efforts. Satan cible, comme dans les batailles, les officiers, ceux qui vont marcher devant, comme Pierre a été ciblé. Et donc, ceux qui veulent veiller sur d'autres doivent faire très attention à veiller sur eux-mêmes. Malheureusement, à Éphèse, les responsables donnaient du fil à retordre. Ils étaient critiquables, ils étaient reprochables. Ils avaient des connaissances et des aptitudes et des très mauvais caractères. L'Église, et quand on voit les églises qui étaient démarrées autour d'Éphèse, l'apôtre Jean, encore, doit faire des retouches. Exilé sur l'île de Patmos, ce vieillard qui était jeune quand le Christ l'a appelé à le suivre, maintenant dit, voici ce que le Christ dit à ses églises en Asie mineure. L'église à Éphèse a abandonné son premier amour. Pergame s'est livrée à l'immoralité sexuelle. Thyatire laissait enseigner une femme qui s'est prétendue prophétesse pour livrer les gens à l'immoralité sexuelle. Sardes passait pour être vivante, mais elle est morte. Laodicée était tiède, malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Et on s'étonne que l'Église est partie de cette région. Le but d'un pommier n'est pas de produire un pomme. Mais des pommiers. Le responsable, ceux qui veillent sur vous, doivent donc être de bonnes pommes. Il veille donc sur lui-même. Il veille donc sur lui-même afin d'être à la hauteur de produire le fruit de Christ. Et combien c'est bien une vie bien dépensée, une vie qui serve pour l'éternité, une vie qui se donne, une vie qui est créée, une vie qui donne du fruit aux autres. Donc il doit veiller sur lui-même. Et l'apôtre Paul, je pense aussi, vous invite à veiller sur eux. À nos côtés. Et si, et sur moi, s'il y a des choses à corriger, l'apôtre Paul dit, n'accepte pas d'accusation contre un ancien s'il n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. C'est-à-dire, s'il y a deux ou trois personnes qui reconnaissent, pas simplement, ben, j'ai pas aimé ce qu'il m'a dit, donc je dis des choses. C'est pas ça. C'est plutôt, s'il y a un vrai problème, et deux ou trois personnes reconnaissent cela comme problème, qu'on puisse le dire à cette personne, pour que cette personne devienne irréprochable et veille sur elle-même. Donc elle veille sur elle-même, l'Église veille sur elle, et puis de deux, il conduit bien son foyer. S'il va accompagner d'autres, grandit son foyer. S'il va bénir d'autres familles, est-il d'abord une bénédiction chez lui? Donc mari d'une seule femme, parce que les anciens à Éphèse ne l'étaient pas, ils n'étaient pas fidèles. Et si l'homme est marié, qu'il respecte, qu'il choisit, qu'il chérisse sa femme. De deux, ses enfants sont respectueux, dignes, non pas incorrigibles ou insubordonnés. Ils dirigent donc bien. Et le mot au verset 7, c'est le mot pas simplement bien, mais belle. Il a une famille où il y a quelque chose qui est bien et qui est remarquable, qui est beau chez eux. Et ses enfants donc, et sa femme le reconnaissent. Et dernière qualité pour conduire d'autres, c'est d'être capable d'enseigner. Nous y reviendrons dans un instant. Pour conduire d'autres, une certaine sagesse. Il commence par trois qualités et puis il ajoute. La première, c'est qu'il soit sobre. Il a une tête sur ses épaules. Il voit la situation. Il comprend. Il comprend les enjeux, il comprend les dangers, il comprend peut-être aussi les solutions. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est étourdi, épris par du vin, la part du gain, il mentionne la télé, l'internet, les plaisirs inordonnés, des choses, mais il a quand même une tête, on peut parler avec cette personne, on peut faire confiance à cette personne comprend et voit la vie, les enjeux, les difficultés et les solutions. Sobre dans ce sens-là, pas épris par d'autres choses. Sensé. Parfois, on entend des choses qui sortent de nulle part, qui sont plutôt du paganisme que l'enseignement biblique. Sensé. Nous avons une foi dans un Dieu qui s'est manifesté en Christ, mais le Christ, il ne faisait pas des choses bizarroïdes, remarquables, étonnantes. Mais certaines personnes, malheureusement, veulent proposer des solutions qui semblent sortir de l'ordinaire pour montrer que c'est Dieu qui agit. La Bible nous recommande, au contraire, d'être sensé. Le mot, dans le grec, veut dire modéré. Ça parle de ce qui est donc pas périphérique, pas périphéral, pas dans les choux, mais plutôt ce qui est au centre. Que les solutions qui sont proposées tiennent compte et de votre situation, et de Dieu, et de ce que dit la Bible, et ne propose pas des choses farfelues. Le mot est employé en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, pour ceux qui se donnent à l'extase. Donc, plutôt ce qui est au centre. De 3, attrayant. Quelqu'un de par sa vie n'est pas cassant, n'est pas tellement lourd, mais qu'on pourrait aussi aimer ou prendre plaisir à être avec. Attrayant. Hospitalier, parce que ça fait un bien fou de voir comment vit l'autre. Comment lui, il aime sa femme, il éduque ses enfants. Comment il y a ce foyer où il y a la chaleur et la grâce et l'amour. Et donc on a besoin d'un accès à sa famille pour voir. Et finalement, habile dans son enseignement. Capable d'enseigner lui-même, capable d'enseigner d'autres et capable de reprendre ceux qui s'égarent. En exposant ces choses, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense étroitement la parole de la vérité. » Vous savez, et continue l'apôtre Paul, que je n'ai rien caché de vous, mais j'ai prêché, j'ai enseigné publiquement et dans les maisons, annonçant la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai énoncé tout le plan sans rien cacher. Faites donc bien attention. Malheureusement, Timothée, le jeune, était seul dans une grande ville, capitale, avec des hommes bien affermis, bien aguerris, et qui enseignaient des mauvaises choses, et qui se comportaient mal, et ce jeune en avait trop. La charge était trop, et l'apôtre Paul n'était plus. Certains se sont écartés de cette ligne, se sont égarés dans des discours creux, Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent ni à ce qu'ils affirment avec assurance. C'est dans cette perspective, Paul dit à Timothée toujours, que nous travaillons, que nous laissons insulter, parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes et en particulier des croyants. Transmet ses instructions, enseigne-les. 1 Timothée 4. 1 Timothée 5, le chapitre suivant. Que les anciens ou les surveillants qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur sur tous ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Chapitre suivant, 6. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, il est enflé d'orgueil, il est aveuglé, etc. Quelque part, ce frère est utile parce qu'il connaît les Écritures. Il sait, il les comprend comme Jésus les a comprises. Il les donne avec une certaine simplicité, amour et joie qui se nourrit lui-même, mais qui aide les autres à trouver les repères dans ce que le Christ a dit. Mais ils soient capables aussi de corriger. Ne croyons pas que les erreurs sont parties, qu'il n'y a plus de nos jours. Nous avons des doctrines hyper charismatique, l'Esprit m'a dit, Dieu m'a dit. Il pourrait. Testons cela. Ou une négligence concernant l'éthique qui bafoue le mariage, la famille. Le Centre évangélique de Logne, le mois de novembre 2012, le sujet débattu était la richesse de l'Évangile ou l'Évangile des richesses. Parce que dans nos milieux, nous avons des personnes qui promettent tout et que Dieu est là pour nous enrichir et qu'il suffit de dire à Dieu ce qu'on veut et il nous le donne. Et on peut invertir, dit le CNEF, le Conseil national des évangéliques, nos rôles entre est-ce que c'est Dieu qui me parle et j'écoute, ou est-ce que c'est moi qui parle et lui qui doit m'écouter et répondre et donner ce que je veux. Et Sébastien Fett, donc chercheur en CRNS, nous a parlé des pyramides nigériennes et ailleurs avec des pasteurs millionnaires. Soyons donc sobre et sensé dans ce que la Bible dit. Sobre, c'est de reconnaître donc l'enjeu. Que Dieu veut faire une grande œuvre, mais c'est quoi cette œuvre que Dieu veut faire en toi, pour toi? Et d'avoir des frères et des sœurs, qui vont marcher avec le Christ et qui soient capables de marcher avec vous pour vous conseiller, pour vous écouter, pour prier avec vous, pour vous aider. Mais pour qu'ils soient aptes à le faire, ils veillent sur eux-mêmes, ils connaissent les Écritures, ils les mettent en pratique, ils ont des choses à corriger, ils les corrigent. Et puisqu'ils voient Dieu à l'œuvre en eux, dans leur foyer, ils peuvent être utiles chez vous pour vous aider, pour vous accompagner. Mais pour être sobre et sensé, ça veut dire qu'ils voient clair. Pour être utile pour vous, ils comprennent quelque chose de ce mystère et de ce royaume de Dieu et de ce que Dieu dit, et ils font chez eux, et ça se voit, et puis ils vous les donnent. Et ces personnes-là sont d'une grande valeur. d'une grande utilité pour vous, pour vous aider. Mais d'être sobre, d'avoir une perspective, de trouver des solutions sensées, basées sur ce que le Christ dit, qui ne vont pas vous envoyer dans les cordes, dans le camp, dans le chou, mais plutôt qui vont vous aider. C'est quelqu'un qui s'est exercé à écouter, à apprendre pour lui-même, pour faire ce travail en lui-même, dans sa propre famille. Et c'est une grande valeur. Mais finalement, comme l'apôtre Paul avait placé Timothée dans un lieu où s'étaient érigées des personnes qui s'opposaient à ce qui était utile, qui s'opposaient à l'Évangile, qui faisaient un peu n'importe quoi et qui enseignaient mal ces choses pour faire du mal à l'Église, c'est là où Timothée devait corriger. En tant que jeune de 30 ans, corriger ceux qui étaient là, les pères de la ville, les pères de l'Église. Ce n'est pas chose évidente, mais parfois nécessaire aussi de nous corriger. Mais je préfère celui qui se corrige lui-même, celui qui, et moi-même, qui connaît ses propres limites, qui est déjà pardonné, gracié, qui connaît et les points forts, mais aussi les points faibles, qui, lui, celui-là, il peut me parler. Il me comprend. Mais attention à celui qui, puisqu'il a du pouvoir, il s'assoit. Il veut asseoir son pouvoir. Et là, il veut parler. L'homme veut juger, a dit Karl Barth. Il pense s'asseoir sur un haut trône, mais en réalité, il s'assied sur un tabouret d'enfant, sonnant sa petite trompette, craquant son petit fouet, montrant d'un sérieux effroyable son petit doigt, alors que rien ne se passe qui a de l'importance. Il ne peut que jouer à juger. Mais quand on donne un poste, une position à quelqu'un, c'est ça le vrai problème de la religion. Ça devient une affaire personnelle, c'est moi. Quand on était en Afrique, il y avait des barrières pour protéger les routes en terre battue. Et qu'il pleuve ou pas, si la barrière est fermée, on avait des chefs de la barrière. Ils étaient là en attendant le passage. Des papiers, monsieur. Les clés de la voiture, monsieur. Et là, parfois, on avait à négocier. Pas parce qu'il y avait injustice ou difficulté, mais parce que parfois, certaines personnes avaient besoin d'être chef de la barrière. Et on voit une attitude humaine qui peut surgir là où on a, quand on devient responsable. Et donc, l'apôtre Paul dit qu'il ne doit être ni batailleur ni querelleur. Qu'on va pour un conseil et l'autre, il va vous lâcher les morceaux, les 40 vérités. On n'avait besoin que d'une ou deux. Mais plutôt qu'il soit doux et pacifique. Venez à moi, Jésus a dit, car je suis doux et humble. Ah bon? On vient à celui qui est doux et humble du cœur, parce que mon joug est facile. Et mon fardeau est léger. Pas aux pharisiens qui ajoutaient des fardeaux. sans lever le doigt, comme a dit Jésus, pour les aider. Lequel parmi vous est sage et intelligent, qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne faites pas les fiers, ne mentez pas contre la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut. Elle est au contraire terrestre, purement humaine et démoniaque. Jacques, le frère de Jésus. Ce n'est pas la personne qui s'approprie le pouvoir ou une autorité et qui veut veiller sur les autres qui est forcément sage. La sagesse d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, et qui veut faire du bien chez l'autre, pas se brandir. Ok? Donc, une grâce, un amour pour conduire, et c'est l'avant-dernière qualité, parce que le combat, c'est d'aller sauver le pécheur, sauver l'être humain, aimer celui pour qui Christ est mort, en luttant pas pour faire du mal à la personne, mais contre ce qui le retient. Et de ne pas donc se tromper de bataille, de devenir corollaire et combattant contre la personne. Combattant, oui, avec humilité et grâce et amour, en tenant compte de ses propres fautes et faiblesses, pour être utile pour aider quelqu'un d'autre. Peut-être que vous vous dites, ces qualités-là, franchement, c'est remarquable, bon courage. Et c'est le plan de Dieu qui nous donne ces personnes dans notre sein qui soient capables, qui aient au cœur une belle œuvre, l'œuvre de Jésus-Christ en vous, qui soient suffisamment patients et indulgents pour permettre que l'œuvre de Dieu se fasse en vous, qui vous accompagne, mais qui soit suffisamment forte aussi pour veiller et sobre, pour voir là où il y a des difficultés et une certaine sagesse pour nous prévenir et pour nous aider. Et ces personnes-là sont précieuses. Autant que le Christ, il est précieux, autant que son œuvre est précieuse. Et je pense que Dieu est à l'œuvre en nous, et je vous invite à prier, à réfléchir sur ces personnes. Et dimanche, on va vous entendre. Et moi, j'ai été déjà béni et encouragé par la présence de ces personnes, ces frères, dans notre assemblée. Et je remercie Dieu beaucoup pour eux. Quand Dieu veut entraîner l'homme à l'émerveiller et l'outiller, quand Dieu veut modeler un homme pour jouer le rôle le plus noble, quand son cœur désire si fortement créer un tel homme courageux pour que le monde en soit étonné, observez ses méthodes et ses voies, de quelle manière impitoyable il le perfectionne, celui qu'il a royalement élu, combien il le martèle, le blesse et avec des coups puissants le transforme en des bouts d'argile que Dieu seul peut comprendre, alors que pleure son cœur tortué, il lève ses mains en implorant, comment il courbe sans le casser le matériau de choix qu'il travaille, de quelle manière il utilise ce qu'il a choisi, le trempant pour les nombreuses causes, l'encourageant de toute manière à tester sa splendeur. Dieu sait ce qu'il fait. Père éternel, nous voulons te remercier. Nous sommes des vases de terre. pour que le trésor surabondant et merveilleux de ton évangile soit en nous et transforme ces simples et utilise ces simples vases de terre pour donner l'évangile comme un parfum de l'amour et de la grâce de Jésus-Christ aux autres. Béni sois-tu de confier, de transmettre à nous la grâce, l'histoire de ton évangile pour qu'à notre tour, par nos enseignements, nos familles, nos vies, nous puissions te donner les uns aux autres, d'abord à ton peuple et aussi à un monde en épédition. Père, de même que cette histoire de Jeanne, charpentier qui a abandonné le métier de charpentier parce qu'il a dû, et c'était dur, trop dur, il avait dit, il préfère être pasteur parce que être menuisier ou charpentier, c'est fatigant. Et on lui a répondu, ah oui, et les cœurs des âmes, et les âmes sont bien plus dures que le bois. Mais béni sois-tu, parce que tu vas agir, bénir, sauver, faire grâce, nous remettre en contact avec toi. Et nous voulons, j'aimerais te remercier pour chaque personne que tu appelles à toi, chaque personne en qui tu travailles, que chacun de nous soyons sobres, sensés. Que nous veillons là aussi sur nos familles pour transmettre à nos enfants cet héritage précieux de qui tu es par notre vécu et par nos enseignements. Et puis Père, bénis ton Église, ton peuple ici, pour qu'ils soient une source de bénédiction, de grâce et de force, les uns pour les autres. Je te prie particulièrement pour les frères et leurs familles en qui tu es à l'œuvre et qui désirent et aspirent être utilisés par toi pour bénir, servir, accompagner, aimer et permettre que toi, tu façonnes chaque vie ici. Nous te remercions pour eux, pour leurs familles. Tu prions ta grâce, ta protection aussi sur leur vie. Et nous te prions, Père, que tu les plonges dans ta parole. Que tu leur parles, que tu les nourrisses, que tu les protèges ainsi. Et qu'ils soient sobres et sages, remplis de grâce et de douceur pour nous aider, pour nous accompagner, pour nous parler, afin que ton œuvre se fasse en nous. Merci pour ces familles, merci pour le Christ que nous allons fêter d'ici quelques semaines, sa résurrection, son envoi pour mourir pour nos fautes. Aide-nous tout un chacun à te suivre. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne te connaît pas encore, il suffit, et s'il a compris la grâce de Christ, ce pardon qui se trouve en Christ, il suffit qu'il accepte ce pardon en Christ et qu'il te permette d'agir, de vivre dans sa vie, pour lui donner vie et pardon et qu'il puisse marcher dans tes voies. S'il y a quelqu'un qui veut cette vie ce matin, tout simplement qu'il donne sa vie à Christ, qu'il accepte ce pardon qui est le sien, acquis à la croix de Christ pour lui, par grâce. Père éternel, nous te remercions pour toutes bonnes choses que tu nous donnes. Et nous, nous recommandons à toi que tu veilles sur nous, que tu nous visites, nos familles, que tu nous parles en semaine, que tu nous redises ta grâce, ton amour, ton espoir, ta paix, ton pouvoir pour nous transformer chacune de nos vies. Merci d'être un tel Dieu pour nous. Au nom de Christ. Amen.